Merci beaucoup, bonjour à tous. C'est un bonheur de vous retrouver sous le soleil et sous ce merveilleux chapiteau en compagnie de deux auteurs magnifiques qu'on va vous faire découvrir, que vous avez déjà pu lire. Donc Marie Rebourg et Cristina Araujo, qu'on va vous présenter en quelques mots. Alors Marie Rebourg, elle est née en banlieue lyonnaise en 1982. Elle effectue un master en hydrogéologie à Grenoble, puis elle exerce ce métier avant de devenir institutrice. Après avoir analysé les strates de la terre et de l'eau, elle revient à celle de l'enfance dans le bouclier de Marie aux éditions Philippe Ray. Ce bouclier est celui qu'elle a inconsciemment construit pour se protéger des souvenirs du trauma de l'inceste, mais son corps va être plus bavard qu'elle. Comment survivre avec le poids du secret et apprendre à se confier aux autres ou au papier? À mes côtés donc, Cristina Araujo, qui nació en Madrid, comme on dit, en 1980, diplômée en philologie, elle travaille comme traductrice de documentaires, notamment pour le National Geographic, et elle vit aujourd'hui à Francfort. Son roman s'appelle « Mira a esa chica » aux éditions Tusquets. Il se base sur un fait divers qui a lieu en Espagne lors des fêtes mythiques de Pamploune. On y suit Myriam, 18 ans, dont le monde s'effondre lorsqu'elle subit un viol collectif. Un événement qui va donner lieu à un procès retentissant et va secouer toute la société. Comment cette jeune fille va vivre cela dans sa chair et son âme blessée? Et qu'est-ce qui pourra l'aider à avancer? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Enfin, à nos côtés, nous avons deux interprètes aujourd'hui, Florence Serrano et Margot Duria. Alors, bonjour à toutes et merci d'être là. Cristina, que ce soit à la maison ou à l'école, la lecture vous a ouvert les portes de quel monde?
Muchas gracias por la presentación y por la traducción. A mí, por ejemplo, yo siempre recuerdo haber tenido la lectura y la escritura muy presente en mi vida. Ha cambiado mucho también a lo largo de los años y lo que más me ha impactado, voy a sobre todo hablar de los últimos años, que son los que más han influido en mi manera de escribir, ha sido poder transmitir a los lectores lo que para mí era lo que me aliviaba más a la hora de leer, que era que la gente pudiese reconocerse en los personajes, sobre todo en esos aspectos en los que no estamos tan orgullosos de nosotros mismos o que nos hacen avergonzarnos de nuestros sentimientos o de nuestra manera de pensar, cuando en el fondo son reacciones muy humanas, muy comunes y que son las que nos hacen humanos al fin y al cabo.
Je vous remercie pour cette présentation et je vous remercie d'être là aussi. L'écriture et la lecture ont toujours joué un rôle très important dans ma vie et il y a eu une évolution au fil des années, en particulier ces dernières années. J'ai vraiment ressenti le besoin de transmettre aux lecteurs ce qui me soulage, en particulier sur les aspects qui nous font parfois être un petit peu honteux ou des questions qui sont un petit peu difficiles à aborder et que j'aime traiter via l'écriture.
Marie, petite fille, vous aimiez écouter les histoires du soir. En quoi est-ce que la lecture et la poésie sont venues compléter cette nourriture intérieure?
Oh là là, c'est... C'est difficile comme question. Je ne sais pas. Je pense que la lecture du soir, déjà, ça fait c'est un lien. C'était un lien avec ma sœur, avec mon frère, avec ma mère. C'était souvent elle qui nous lisait les histoires. Et après, la lecture seule, je pense que ça m'a aidée. Comme j'étais une enfant assez solitaire, d'avoir toujours... En fait, quand on a un livre avec soi, on n'est jamais seul, en fait. Donc, je pense que la lecture m'a permis de ne jamais vraiment me sentir seule.
Christina, vous avez commencé à écrire très tôt. Qu'est-ce que vous écriviez à l'adolescence et pourquoi l'écriture est devenue une nécessité pour vous?
Pues en la adolescencia escribía muy diferente de como escribo ahora. Los temas también eran totalmente, no tenían nada que ver, la verdad, con lo que es ahora una escritura más desde la madurez. Yo cuando escribía de adolescente me basaba mucho en lo que yo estaba viviendo en esa época, en temas a lo mejor más románticos, en enamorarme, en los chicos, en la amistad. Y quizás no me daba cuenta, pero porque ahora, claro, ahora cuando escribo soy más capaz de autoanalizarme y porque escribo ciertos temas y porque ciertos temas me dan más alivio que otros o porque quiero explorarlos. Y en la época de la adolescencia creo que todo salía un poco más en cascada, salían sin pensarlo mucho. Y no me daba cuenta que quizás también estaba explorando mucho pues esos sentimientos tan complicados que tienes a esa edad, que son tan contradictorios, que a veces tampoco te hacen sentir tan orgullosa de ti misma y que luego también he mantenido mucho esa perspectiva o esa honestidad cuando he sido más mayor y he querido pues explorar lo mismo, incluso en la misma edad, pero ya con una madurez que me permitía organizar más esos sentimientos.
Lors de l'adolescence, comme j'ai commencé à écrire très jeune, j'évoquais des thèmes différents, j'abordais vraiment les choses d'une autre manière, en particulier avec une écriture sur des thèmes romantiques, les relations, l'amitié. Et maintenant, avec cette écriture de la maturité, je m'auto-analyse davantage, mais surtout j'auto-analyse mes besoins d'écriture, pourquoi je souhaite explorer certains thèmes. Et c'est un fonctionnement un petit peu en cascade avec l'exploration des sentiments contradictoires et une volonté de recherche de l'honnêteté, pourquoi je ressens ces sentiments. Et une capacité aussi à organiser davantage mon écriture.
Marie, comme beaucoup d'adolescentes, vous avez un journal intime à un certain moment. Pourquoi c'est devenu un confident? Pourquoi c'était important de vous confier au papier? Et qu'est-ce qu'on peut écrire qu'on ne parvient pas toujours à dire?
En fait, je me suis très vite rendu compte que j'avais des différences avec les autres enfants et les autres adolescents, et c'est des différences que j'arrivais pas forcément à exprimer. J'ai essayé quelques fois, mais je sentais que j'étais pas comprise, et du coup ou alors on me renvoyait quelque chose de négatif, donc j'ai arrêté de l'exprimer verbalement et j'ai commencé à l'écrire. C'était plus un dialogue qui se mettait en place, en fait, avec un frère imaginaire que je m'étais inventé. Donc il me répondait, bah, donc c'est quand même moi qui répondais, mais dans ce dialogue que j'écrivais, ça me permettait de répondre aussi à des questions que je me posais sur ce que je vivais. Donc c'était plus... c'était un dialogue... Non, c'était pas un dialogue, vu qu'il n'y a que moi qui parlais, mais comme je faisais intervenir... un frère imaginaire, ça me permettait de comprendre ce que je vivais. Voilà.
Christine, votre héroïne Myriam, elle se voit aussi offrir ce qu'elle appelle un journal de gratitude et non pas un journal intime. Là aussi, pourquoi est-ce que ça lui permet, par l'écriture, de se réapproprier son histoire ?
Pues el tema del diario de gratitud es algo que yo he escuchado muy a menudo, que se hace más recientemente, que es, bueno, hay diferentes maneras de enfocarlo. Yo en el caso del libro, por ejemplo, me basaba en algo que he visto que hacían algunas chicas a mi alrededor y que era intentar pensar también en las, bueno, siempre, no solo en las épocas malas, sino quizás pues con cierta periodicidad en lo que hay que agradecer también cada día, que muchas veces damos por hecho situaciones que quizás hemos estado esperando durante muchos años y ya no nos damos cuenta de que eran, bueno, por lo que luchábamos y que al final hemos conseguido. Entonces, esto es un poco como lo que yo tenía más en la cabeza, pero luego reflexionándolo, también es verdad que la escritura, desde un punto de vista terapéutico, es muy útil también para muchas personas y también te ayuda un poco. Yo creo que en el momento que pones por escrito tus pensamientos, empiezas como un poco a reflexionar sobre ellos, a explorarlos, a también darte una explicación a ti misma. Y no es algo que yo practique, lo he intentado también algunas mañanas, pero sí es verdad que me he dado cuenta que descubro algo de mí misma alguna vez cuando lo he intentado. Y bueno, me parece que es una manera también muy apropiada para algunas personas que quizás no se sienten tan cómodas compartiendo ciertos pensamientos con, bueno, en otro tipo de terapias o con otras personas.
Le journal de gratitude, c'est un phénomène assez récent, mais qui se développe assez fréquemment aujourd'hui, en particulier chez certaines filles de mon entourage, et qui permet de se sentir reconnaissant, d'être reconnaissant ou reconnaissante chaque jour. Il faut se rendre compte de ses réussites. Et cette écriture thérapeutique développe une pensée réflexive, on arrive à se donner des explications à soi-même. Donc c'est très réflexif et je découvre des choses sur moi-même.
Marie, vous avez mis en exergue de votre livre cette phrase du philosophe Marc Crépon qui dit « Il faut des voix singulières pour que le seuil de la tolérance d'une société à une forme de violence comme les abus sexuels se déplace ». Pourquoi est-ce que c'est là précisément que la littérature est importante et en quoi est-ce que votre voix singulière peut venir compléter cela ?
Je pense que donc là en fait il faut que j'explique en quoi Marc Crépon a raison en fait, non ? En tout cas moi j'ai mis cette phrase en exergue parce que quand je l'ai vue à la télé la prononcer, je me suis sentie invitée à partager ce que j'avais vécu. Et effectivement je pense que à travers les témoignages de victimes, je pense que la société peut se rendre compte que des faits peuvent être plus graves que ce que la société a tendance à penser, et donc que le seuil de tolérance face à cette violence puisse baisser. Moi, j'avais très à cœur avec ce livre de participer à ma mesure, évidemment, à essayer de faire baisser ce seuil de tolérance à la violence, parce que moi j'ai été confrontée quand j'ai dit ce qui m'était arrivé, des personnes quand même assez proches de moi ont eu tendance à minimiser, c'était pas si grave, c'était il y a longtemps, c'était, et là ça m'a vraiment prouvé que le seuil de tolérance face à cette violence il était quand même très élevé, parce que pour eux c'était bon quoi. Et je pense que pour beaucoup de gens, c'est bon, en fait. Ça va, le fameux « ah, ça va ». Et non, moi, ça n'allait pas, donc d'où ce livre. Voilà.
Vous avez utilisé un mot important qui est celui de témoignage, mais ce livre n'est pas un témoignage, il a une forme littéraire. Pourquoi vous l'avez fait sous cette forme-là ?
Alors, j'ai essayé plusieurs formes qui ne fonctionnaient pas jusqu'à trouver celle-ci. Moi, je sais que c'est un sujet difficile et que beaucoup de gens freinent, enfin, n'ont pas forcément envie de lire ce genre de livre. Et donc, je m'étais dit qu'il fallait que j'écrive une histoire qui soit facile à lire, qui ne soit pas plombante et qui ne soit pas juste un énoncé de faits qui peut être un petit peu... Je voulais écrire une histoire qui soit captivante, qu'on ait envie de suivre cette petite fille, de la voir grandir. Enfin, voilà, j'ai essayé de travailler la forme au maximum pour attirer le lecteur et l'encourager à aller au bout du livre, en fait, à le lire jusqu'au bout.
Christine, contrairement à Marie, il ne s'agit pas de votre propre histoire, mais de celle d'une jeune fille que vous avez découverte à travers les médias espagnols, à travers son procès. Pourquoi est-ce que vous avez envie, vous, de lui trouver une voie littéraire et comment vous avez trouvé cette voie en vous ?
Pues yo quise darle voz a esta chica del caso que pasó en España porque a pesar de que cuando ocurrió este caso y cuando se habló del juicio en ese momento tampoco pensé que quería escribir sobre ello, mucho más tarde esta chica tuvo como que dirigirse de una manera anónima a los medios de comunicación porque esto estaba en España, estaba en boca de todo el mundo. Hubo un tiempo de quizás un mes o más durante la época cuando se recurrió el juicio, en el que todo el mundo en España estaba hablando del tema. Y entonces ella en esta carta, que era anónima, dijo que la gente tenía que tener cuidado cuando hablaba de este tema porque nadie se imaginaba que podía tener al lado a alguien que había sufrido algo así y que quizás pues estaba presente. Muchas personas tampoco hablaban del tema de una manera respetuosa. Entonces, a mí aquello me impactó mucho porque fue cuando empecé a preguntarme cómo se sentirían personas que habían sufrido esto y que tenían que hacer frente a las opiniones de los demás, a sus faltas de respeto, también quizás dentro de su entorno muy cercano, oír a personas a las que querían tratar el tema y quizás no de la mejor manera. Entonces, todo esto y otras cosas que empecé a investigar respecto a víctimas de violaciones me abrió mucho los ojos porque nunca lo había visto tan desde dentro, nunca me había planteado qué podían estar sintiendo y sobre todo todas las situaciones diferentes que a lo mejor podían ser en entornos de estudios, en entornos familiares, en las que ellas tenían como que casi sentir una reacción física de... pues no sé, cómo, de tensión, de no saber si las estaban juzgando. Y entonces quise un poco retratar todo eso porque tampoco yo me lo había llegado a plantear hasta ese momento. Entonces quería un poco transmitir a la gente lo que yo investigué, todo lo que me documenté. Y pensé mucho también en respecto a lo de cómo le di voz. Bueno, ¿cuál era la segunda pregunta? De cómo encontré mi voz. ¿Cómo lo encontré dentro de mi voz? Pues pensé mucho también en cuando yo era adolescente, porque esta chica de España tenía 18 años cuando ocurrió, en cómo también yo me sentía tan vulnerable, que tenía todas esas inseguridades que no me hacían a veces capaz de diferenciar, pues cuando a lo mejor yo me estaba echando la culpa de cosas que realmente no eran mi responsabilidad, cómo me afectaba mi entorno, cómo me llenaba de complejos también, a pesar de yo no haber sufrido este tipo de tragedia. Pero sí podía verme en toda esa vulnerabilidad. Y bueno, intenté un poco también poner algo de mí misma en todas esas emociones que sentía la chica.
Donner la voix à cette fille, c'était le premier enjeu qui m'importait. Et je l'ai fait via ce qui m'arrivait des voix de la société espagnole, donc en particulier la presse. Je me suis rendu compte que je n'avais jamais pensé à cette situation-là. Je ne m'étais jamais mis à la place de ces filles-là. Et dans cette société-là, au moment du procès, tout le monde en parlait. Et elle a écrit, donc la victime a écrit une lettre anonyme pour demander aux personnes de faire attention, car personne ne sait ce que ces personnes, les personnes qui vivent cela, les victimes ressentent. Et parfois, tous ces discours de ces personnes qui se permettent de faire des jugements sans trop savoir ne sont pas très respectueux. Et je voulais savoir comment se sentaient ces personnes vis-à-vis de leur entourage. J'ai fait des recherches, cela m'a ouvert les yeux. Je n'avais jamais imaginé ce qu'elles pouvaient ressentir. Et petit à petit, j'ai intégré cette dimension-là. Et ça a été une réaction physique aussi. Transmettre les informations a été aussi important. Donc transmettre les sentiments, transmettre les informations, les deux se sont mêlés. Et en ce qui concerne ma voix, je me suis imaginée en fille de 18 ans, avec toutes les difficultés... Que cela peut représenter de se retrouver dans cette situation, de se sentir coupable, de souffrir et de vivre cette vulnérabilité.
Marie, longtemps vous n'aviez ni le souvenir en raison de l'amnésie traumatique, ni même les mots, j'ai envie de dire, plus tard pour décrire ce qui vous était arrivé, parce que je rappelle qu'elle n'avait que 6 ans quand l'inceste et les viols à répétition ont commencé. Comment est-ce que vous avez développé, j'ai envie de dire, un véritable dictionnaire corporel vis-à-vis des autres et vis-à-vis de vous-même?
Dictionnaire corporel, waouh. Moi, comme je n'avais aucun souvenir des agressions, j'avais pas conscience que mon corps s'exprimait malgré l'absence des souvenirs. Donc, je sais pas trop comment parler de ce dictionnaire corporel, mais
c'est que votre corps parlait d'une certaine manière.
Oui, oui, oui. Il parlait, mais moi je ne l'entendais pas, je ne l'écoutais pas déjà dans un premier temps, je pense, et après je ne l'entendais pas, et je suis arrivée quand même à un moment de ma vie où il s'est exprimé tellement fort que je n'ai pas eu le choix que d'écouter et de chercher à comprendre l'origine de tout ce que mon corps pouvait exprimer.
Et qui était ? Ce que votre corps exprimait, donc...
Ah, c'était ça la question, oui. D'accord. Pardon. J'avais des tocs, de nombreux tocs de comptage et de vérification et de... j'avais des problèmes aussi quand les surfaces sur le sol changeaient, il fallait que enfin, que j'évite les lignes, les seuils de porte, enfin tout ça. Et aussi, le plus problématique, c'était ce que j'appelle une phobie du contact. Je ne supportais pas d'entrer en contact physique avec n'importe qui.
Christina, vous auriez pu vous contenter de ne donner qu'une voix à votre héroïne, une voix à cette jeune fille que vous n'avez jamais rencontrée d'ailleurs. Mais dans votre livre, justement, vous rajoutez d'autres voix, y compris les voix des violeurs. Pourquoi c'était important de donner vraiment toutes les voix de cet univers, de son monde auquel elle avait été confrontée, y compris leur voix à eux ?
Pues yo quise centrarme tanto en todas esas perspectivas porque me parecía una manera muy rica de retratar todo el entorno que rodea a una persona que ha sufrido este tipo de circunstancia. Y lo que quería, por ejemplo, en el caso de los violadores, cuando les di voz, me costaba mucho porque, claro, yo no podía meterme en la piel de ese tipo de personas o en lo que podían haber pensado o lo que les llevó a aquello. Entonces, en los capítulos dedicados a ellos, utilicé muchos recursos más experimentales que nunca había usado antes, como por ejemplo era una transcripción de WhatsApps en los que ellos hablaban después de haber violado a la chica. También, por ejemplo, artículos de periódicos en los que se hablaba de la situación. ¿Qué más usé? Luego también transcripciones del juicio, en las que, se, por ejemplo, salen preguntas seguidas de lo que a lo mejor, no preguntas, sino las respuestas seguidas de lo que ellos iban contestando a las preguntas de los abogados o de los fiscales. Entonces yo ahí ponía muchísima distancia entre ellos y yo, o lo que puede ser, por ejemplo, muy diferente la distancia que ponía entre lo que era la víctima, en la que sí que podía meterme más dentro del personaje, sentir lo que sentía, reflejar mi propia vulnerabilidad en ella, mientras que en el otro caso era tan difícil que yo creo que, sin darme cuenta, utilizaba estructuras que me mantenían alejada de los personajes de ellos. También quise dar voz al entorno, sobre todo del instituto, de la chica, porque me parecía muy interesante cómo a esa edad la gente no tiene los recursos como para apoyar a un compañero o a una persona que está sufriendo pues, este tipo de trauma. Que creo que es algo que cuando luego maduras, y eso he querido un poco como dejarlo ver en el libro, que recapacitas un poco, ¿no?, sobre cómo eras cuando eras adolescente, los momentos en los que quizás no estuviste a la altura de las circunstancias o no fuiste justo con las personas que tenías a tu alrededor, pero que luego, si eres capaz de tramitar esas emociones cuando eres más adulto. Entonces, para mí era como muy enriquecedor hablar de todas las reacciones muy diferentes que tenían cada uno de los compañeros, la familia, la madre y el barrio en general.
Il a fallu développer d'une manière riche le fait de rendre compte de l'environnement. Car les voix des violeurs, c'était vraiment difficile pour moi d'en rendre compte, car je ne comprenais pas vraiment, je ne pouvais pas vraiment me mettre à leur place. Alors j'ai développé plusieurs procédés. Dans un premier temps, les transcriptions de WhatsApp, une fois que le groupe avait perpétré ce viol-là, leur discussion en groupe. Donc ces transcriptions-là, j'ai pu y accéder. J'ai aussi utilisé la presse et aussi les transcriptions des audiences du procès. Les réponses que les violeurs ont fait aux juges. Et il y a une distance pour me mettre à l'intérieur du personnage, mais bien sûr, j'étais beaucoup moins distante de la victime que des violeurs. Et je voulais refléter ma propre vulnérabilité en elle. Et garder mes distances. Un aspect intéressant a été de me pencher sur l'environnement du lycée, de me rendre compte que les camarades n'avaient pas forcément les ressources pour soutenir la victime. Et on se rend compte après coup, quand on mûrit, que l'on n'a pas été à la hauteur.
Marie, vous écrivez qu'il y a un temps pour tout, le temps perdu ne se rattrape jamais. La construction du livre est intéressante aussi. Vous nous le disiez, on voit grandir cette petite fille au fil des pages et on voit aussi les souvenirs rejaillir petit à petit. Pourquoi vous l'avez construit comme cela ?
Oui, j'ai décidé de suivre l'ordre chronologique parce que c'est en général comme ça qu'on vit sa vie. C'est vrai que j'avais fait un essai avec des flashbacks, un essai d'écriture avec des flashbacks qui ne fonctionnait pas du tout. Et comme je n'ai pas une formation littéraire, moi, à la base, je suis une grande lectrice, mais au niveau de l'écriture, j'ai pas énormément de formation, j'ai beaucoup de contraintes, et du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'essaye de faire le plus simplement possible pour aller au bout du récit. Donc, je me suis dit, voilà, le plus simple, c'est de la faire grandir âge par âge, et puis de voir si cette forme fonctionne, et donc c'est le choix que j'ai fait.
Ces temporalités, Christina, elle est aussi importante chez vous, parce que généralement, la presse, nous, les journalistes, on va s'intéresser à un événement au moment où il a lieu, et puis, au revoir et merci, on ne pense plus à la vie des gens. Pourquoi est-ce que vous avez construit le roman avant le viol, pendant le viol, mais aussi dans l'après ?
Pues a ver, esto es algo que hice muy conscientemente, porque siempre es justo, creo que he entendido lo que has dicho, que la prensa se dedica a una tragedia que en ese momento es la que está un poco en boca de todo el mundo o que acaba de ocurrir, pero luego al día siguiente hay otras tragedias, hay otras catástrofes y entonces todo eso queda ya como en el olvido. Y yo muchas veces me preguntaba, no solo en el caso de violaciones, sino en general, en todas estas noticias que pones en la televisión y son trágicas, que pueden ser pues, un asesinato de un niño, un terremoto. Entonces sale toda la gente que lo ha perdido todo, que ha perdido sobre todo la esperanza, y luego ya nadie se vuelve a acordar de ellos. Entonces yo había veces que a lo mejor me planteaba unos meses después o durante las Navidades, pensaba, pues qué... ¿Cómo estará esa familia? ¿Cómo estarán esas personas que han perdido un hijo, que han sufrido algo tan traumático? Y quise un poco como en este libro explorar mucho todas esas consecuencias, hacer el seguimiento de una persona que ha pasado por un trauma y como reflejar... Bueno, no, quiero decir, no, yo no he querido demostrar nada, sé que es algo que también pues, muchas personas se plantean, ¿no? Pero todas esas situaciones que luego te persiguen, que nunca nos planteamos, todas esas escenas a las que tiene que hacer frente una víctima de cualquier tipo de catástrofe y de cualquier tipo de tragedia y que les acompañan ya no durante los meses que nos acordamos el público, sino durante toda su vida y que, bueno, que es algo que van a tener que estar trabajando internamente y muchas veces pues, a solas. Y retratar lo anterior, bueno, eso fue un poco más básicamente para como para dar una idea de cómo eran los personajes, para presentarlos, para ponerles como las no sé cómo explicarlo, pero los rasgos que eran necesarios como para luego crear el arco en ellos de madurez.
C'est un processus que j'ai vécu en toute conscience. La presse s'occupe des tragédies au jour le jour. Et chaque jour, une nouvelle tragédie en remplace une autre. Et toutes ces nouvelles, les assassinats d'enfants, les tremblements de terre, toutes ces choses terribles qui créent une perte d'espoir. J'ai voulu imaginer comment ces victimes vivaient la Noël, par exemple, quand ils ont perdu un enfant, quand ils ont subi un traumatisme. Je ne l'ai pas vécu, mais j'ai voulu me mettre à leur place à un moment donné. Et on sait que ces personnes sont souvent seules. Et cela permet de donner à penser leur manière d'être, rendre compte de leurs traits, les traits caractéristiques des personnages.
Marie, vous écrivez que pendant les viols, la petite, comme vous l'appelez, a mal, elle manque d'air, c'est trop, je bloque pour qu'elle vive comme avant, pourtant elle n'est plus pareille. Là aussi, c'est vrai que souvent, on espère, la société vous sort voilà, des années plus tard, c'est bon, c'est fait, vous étiez petite, maintenant vous êtes grande, tout va bien. Il y a très peu de livres comme le vôtre qui parlent des séquelles à vie, qui parlent de l'après. Pourquoi c'était essentiel pour vous de parler de cela ?
Parce que c'est un livre que j'aurais aimé lire, en fait. J'ai lu beaucoup de témoignages de victimes qui m'ont fait du bien, quand même. Hein, mais j'étais toujours frustrée de constater quand même que l'accent était toujours mis sur l'horreur des actes en eux-mêmes, que toujours tout était centré sur le viol en lui-même et que finalement on parlait très peu des conséquences ou alors pas en détail. Et donc j'ai écrit le livre que j'ai pas trouvé. Voilà, j'avais besoin que ce soit dit, que ce soit écrit, que être violé, c'est pas juste un terrible moment à passer. Après, c'est toute la vie qui est perturbée. Et donc moi, comme ma vie était perturbée, j'avais besoin que ça soit dit. Voilà.
On le sait d'ailleurs aujourd'hui aussi que d'un point de vue imagerie médicale, on sait que le cerveau des enfants violés ne se développe pas de la même manière et qu'effectivement, ces séquelles à vie, comme vous dites, se retrouve même au niveau du cerveau et du développement. Vous voulez un peu d'eau ?
Ça va, merci.
Christine, à travers votre roman, vous montrez aussi l'après, comme on disait, avec toute cette violence psychologique, sociale, amicale, familiale, juridique, médicale, dont va être victime Myriam. Pourquoi là aussi, c'était vraiment essentiel de montrer que finalement, ce sont tous les domaines de la vie d'une victime qui sont ébranlés, pas seulement son corps, pas seulement son âme, et de montrer aussi, parce que même si vous ne l'avez pas rencontré à nouveau, vous avez lu un article disant que cette victime en question est toujours suivie psychologiquement et qu'elle ne va toujours pas bien.
Pues a ver, todos esos campos que yo exploré en la novela, me documenté mucho, utilicé algunos libros de estadísticas que me vinieron muy bien, en los que hablaba mucho de las consecuencias y las secuelas y cómo muchas mujeres luego, por ejemplo, cambiaban sus hábitos, cómo desarrollaban fobias. Creo que bueno, también María ha hablado un poco de eso. Y también como, por ejemplo, cambiaban incluso de aspecto. Puede ser pues como que cambiaban un poco su manera de ser, porque ellas al final pues se sentían responsables incluso cuando no tenía sentido que fuese así. Y estuve explorando mucho también el tema de la psicología. Consulté muchísimos manuales, leí muchos reportajes y memorias y autobiografías de chicas que habían sufrido abusos y violaciones. El tema de violación grupal, por ejemplo, solo era el caso de España, pero todo lo demás que leí para retratar un poco con mucha fidelidad cómo se siente una víctima eran historias en primera persona contadas por chicas. Entonces, de ahí es donde comprendí mucho cómo esto es algo que te acompaña toda la vida. Y bueno, a pesar de todo, quería poner ese final un poco de esperanza porque es lo que sale al final del libro, que es lo del diario de gratitud, pero eso, por supuesto, no significaba que la protagonista haya dado un punto final a lo que es el trauma, que puede, bueno, luego tramitarse de otra manera, pero siempre va a estar presente.
Je me suis renseignée sur tous les domaines dont je traite dans ce livre, avec des encyclopédies, des reportages, et je voulais savoir quelles séquelles, quelles conséquences, quelles sont les séquelles et les conséquences de ce genre d'action, parce que les femmes changent de comportement, elles se sentent coupables, elles développent des phobies. Et le thème psychologique, je m'y suis beaucoup intéressée avec des reportages, des témoignages. Dans notre cas, c'est un viol en groupe qui a eu lieu en Espagne. Il existe beaucoup de reportages et de documentations racontées à la première personne sur des filles qui parlent de leur expérience. Et ce sont des thèmes qui les accompagnent toute leur vie. Et leur objectif, c'est de mettre un point final au traumatisme qu'elles ont vécu.
Marie, on l'a dit, le corps et la peau sont omniprésents dans ce livre. Il y a l'impossibilité d'être touché, vous l'évoquiez. Il y a aussi ce que vous appelez la carapace des kilos, qui est une autre forme de bouclier que vous allez développer. Et là, il y a les premières règles qui apparaissent avec d'emblée ce refus de devenir une femme. Pourquoi ça vous a inquiété, voire dégoûté de devenir une femme?
Parce que, en fait, je voulais être ni l'un ni l'autre, moi, à un moment. Je pense que dans mon esprit d'enfant ou de jeune adolescente, j'avais séparé le monde en deux catégories. Les victimes et les agresseurs. Donc, même si je n'avais pas de souvenirs conscients, je pense que j'avais quand même cette idée-là inconsciente que d'être une fille ou d'être une femme, c'était dangereux. Donc, je refusais ça, je ne voulais pas être en danger.
Et aujourd'hui, vous vous sentez être devenue une femme ?
Oui, je me définis. Oui, tout à fait. Oui. Oui.
Christine, à l'inverse, dans votre livre, cette jeune fille mal dans sa peau, elle désire être une femme à tout prix. Elle est hyper sexualisée. Elle essaye, au contraire, de montrer qu'elle a des formes, qu'elle se maquille très, très fort. Elle veut exister aussi parce qu'elle se sent profondément invisible à l'intérieur. Pourquoi est-ce que ça va finir par la piéger ?
Pues a ver, yo la protagonista quise un poco aportarle esos rasgos porque era lo que necesitaba para explicar la historia. Porque si yo hubiese utilizado un personaje, por ejemplo, que fuese más estricto, que fuese más una chica como más modosita, con muchos amigos, porque también, por ejemplo, es una chica que no tiene un círculo social tampoco muy, muy amplio, que la acepte totalmente. Si hubiese puesto un personaje así, y igual también que no intentase llamar la atención de los hombres, no me hubiese funcionado la historia, porque yo ahí quería contar un poco cómo se sentía una mujer o una chica cuando luego se siente juzgada por todo lo que ha hecho anteriormente y cuando la gente utiliza en su contra ese tipo pues, de comportamientos que ella ha tenido. Entonces, era lo que yo necesitaba un poco para contar todo lo que quería contar en esta historia. Igual que a lo mejor el hecho de que mi personaje era un adolescente que al tener tantos complejos y tanta rivalidad con otras chicas, pues creaba como un rechazo hacia el mundo femenino. Y luego al final del libro quería también reflejar ese arco cuando ella, al madurar un poco, al hacerse más mayor y llegar a la universidad, empieza a encontrar a las mujeres como aliadas.
Les traits de cette jeune fille étaient assez particuliers, cette hypersexualisation de cette fille, parce que si j'avais choisi un personnage beaucoup plus strict, beaucoup plus discret, une fille qui n'avait pas eu de cercle social significatif, l'histoire n'aurait pas fonctionné. Ce que j'ai voulu montrer avec ce personnage, qu'elle se sentait jugée par tout ce qu'elle avait fait, par ses comportements. Et cela a créé des complexes chez elle et un rejet de la part des autres, de la part des autres femmes parfois. Et c'est seulement à l'université qu'elle a trouvé que les femmes devenaient des alliées.
Au-delà de vos histoires personnelles, des histoires intimes de vos deux héroïnes, de vos deux protagonistes, ce sont aussi des livres qui nous renvoient un miroir de nos sociétés. En quoi, Marie, vous diriez que des mouvements comme MeToo ou MeToo Inceste ont pu contribuer à éveiller ce phénomène de société qui reste encore tellement tabou qu'est l'inceste ?
Je pense que maintenant, grâce à ces mouvements-là, on prend l'ampleur du problème. En fait, on se rend compte que ça concerne énormément de personnes. L'inceste ou les agressions sexuelles de façon plus générale. Donc moi, c'est ça que ça m'a permis de prendre conscience personnellement, c'est qu'en fait, j'étais loin d'être seule. Parce qu'au moment où je me suis souvenue, je me souviens, j'ai dit, mais pourquoi moi ? Comme si ça m'était tombé dessus, alors que tous les autres étaient épargnés. Et à travers ces mouvements-là, avec le travail de la Civise aussi, je me suis rendu compte qu'on était des millions, en fait. Même là, dans l'Assemblée, je suis loin d'être la seule concernée par ce problème. Et puis, à la limite, il n'y a pas que les victimes. Je pense que c'est un problème de... On est tous concernés. Ça concerne tout le monde, en fait. Moi, c'est ça que je pense que le message de MeToo et MeToo Inceste, pour moi, c'est ça. C'est qu'on est tous concernés. Et pour l'instant, il y en a encore trop qui ne veulent pas s'en occuper de ce problème-là. Oui.
Christina, dans le cas de cette jeune fille sur laquelle vous êtes basée pour construire ce livre, il s'agit d'un fait divers qui a véritablement secoué l'Espagne. Or, on le sait, hélas, en Espagne comme en France, ailleurs dans le monde, il y a des viols tous les jours, il y a des viols en réunion tous les jours. Qu'est-ce qui fait que c'est ce viol-là et ce procès-là qui ont vraiment suscité d'énormes manifestations en Espagne, tout un mouvement social, sachant notamment, comme vous le disiez, que ce viol a aussi été prémédité? Est-ce que c'est cela qui a secoué les victimes? Est-ce que c'est cela qui fait que la société s'est réveillée en se disant, mais tant le verdict que la manière d'agir, etc., fait qu'on doit sortir dans la rue, qu'on doit se battre contre cela?
Pues yo creo que también puede que fuese porque cuando ocurrió ya estábamos un poco también en el contexto del Me Too, que creo que lo has mencionado antes. Y también fue un caso que tuvo mucha repercusión porque se filtraron demasiados detalles, yo creo, de respecto al juicio. Se habló mucho de la víctima, se juzgó muchísimo a la víctima y llegó un momento que parecía que casi estaban juzgándola más a ella que a los violadores. Le hacían un montón de preguntas respecto a, bueno, al comportamiento que había tenido y, sobre todo, se puso mucho de relieve que ella no había luchado cuando estaba ocurriendo la violación. Yo creo, a mí eso me llamó mucho la atención, creo que llamó mucho la atención a muchas personas y, en concreto, a mujeres, que se las juzgase por no reaccionar cuando tienes a cuatro personas mucho más superiores que tú en fuerza, en tamaño, y que no te veas capaz de reaccionar. Entonces creo que eso hizo que mucha gente se rebelara, que también cuando salió la pena que se puso a los violadores, que muchas personas no estuvieron de acuerdo con el número de años que se les iba a condenar a estar en la cárcel, se rebelasen. Entonces también a raíz de eso, que se recurriese el juicio, que se hablase tanto de la sentencia, estuvo tan presente en tantas conversaciones, en tantos entornos, en ambientes académicos, en las universidades, dentro de las familias, muchas mujeres que tenían hijas adolescentes. También yo creo que la edad de la víctima influyó mucho en que esto pegase más fuerte en la sociedad española. Creo que todo esto fue una combinación de muchas cosas que hizo que muchas personas se replanteasen las cosas y que los que no se lo habían replanteado tuviesen que hacer frente a la gente que sí que se lo estaba, que les estaba poniendo delante la situación.
Il faut se remettre à l'esprit comment cela s'est produit à une période où le MeToo avait déjà commencé un petit peu. Au moment du procès, on avait l'impression que la victime était davantage jugée que les violeurs. Elle devait répondre à beaucoup de questions et elle n'avait cette situation se produisait parce qu'elle n'avait pas lutté contre. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas opposé de résistance lors du viol. Et c'est là que de nombreuses personnes ont été interpellées par la question de l'incapacité de réaction des victimes au moment du viol. Et cette prise de conscience sociétale, globale, est intervenu au moment du verdict. L'appel au verdict a été énormément débattu et de nombreuses femmes se sont posées la question avec un sentiment d'injustice vis-à-vis de ce verdict. L'âge de la victime a joué en faveur de cette prise de conscience et de nombreuses personnes ont réfléchi à l'impact sociétal.
Christine nous parle de l'injustice. La justice en France, Marie, on peut le rappeler, reste terriblement faible, puisqu'autant la parole peut enfin commencer à se libérer grâce à un mouvement comme MeToo, la justice française et mondiale, hein, d'ailleurs on peut le dire, ne suit pas. Il faut rappeler quand même les statistiques, il y a moins d'un pour cent de viols et d'incestes qui aboutissent à une condamnation ou à une prison. Comment vous expliquez cette lenteur de la justice? En quoi est-ce qu'elle vous révolte?
Alors cette lenteur, je l'explique parce que je pense que la justice, elle est quand même encore beaucoup rendue par les hommes. Et que c'est quand même majoritairement des hommes qui agressent. Enfin, je pense que c'est tout un système qui... Moi, j'ai vraiment l'impression, même encore aujourd'hui, malgré tous ces mouvements, de vivre dans un monde d'hommes fait pour les hommes, en fait. Et du coup, comme la plupart... Après, il y a aussi des hommes victimes, hein. Mais la plupart des victimes sont des femmes, et la femme, elle reste quand même moins importante dans notre société que l'homme. Et donc l'homme, moi j'ai l'impression que les hommes sont protégés, et donc s'ils sont protégés, ils ne sont pas condamnés.
Vous-même, vous n'avez pas porté plainte contre vos cousins qui, il faut le rappeler, au moment des viols sont mineurs également. Pourquoi vous n'avez pas porté plainte?
Pardon? Pour la question de la plainte, moi, c'est les statistiques qui m'ont freinée. Je me disais à quoi bon rentrer dans ce processus difficile et douloureux pour aboutir au fameux non-lieu. Et moi, à l'époque où je m'étais posé la question, je n'étais pas en état d'entendre qu'on me dise que ça n'a pas eu lieu. Donc je n'ai pas pu faire cette démarche-là, mais aujourd'hui je suis en train de la faire. Je pense avoir la force nécessaire pour aller dans une démarche juridique.
Pour répondre à monsieur, c'est parce qu'on fait référence au livre justement où il y a cette scène très forte avec un tribunal imaginé par son père et où la petite fille et l'adulte qu'elle est devenue peuvent justement imaginer un procès qui va aussi la libérer de quelque chose intérieurement. Christina, en deuxième instance, la meute, donc ce groupe d'hommes qui a violé cette fille, va être condamnée à 15 ans de prison au lieu de 5 et à 100 000 euros d'indemnisation collective. On le voit qu'en Espagne, contrairement à nous ici, les lois sur les féminicides avancent, sont beaucoup plus évoluées, les modes de protection aussi. Pourquoi est-ce que le viol ne l'est pas là aussi ? Est-ce que vous ressentez ce que Marie ressent, cette société patriarcale ?
Pues creo que sí, la ha habido durante muchísimos años, obviamente, como en muchos otros países. Quizás, no sé si en España puede que más también debido a, bueno, a cómo ha sido también la situación antes con la dictadura y todo aquello hace ya muchos años que puede haberse mantenido ciertos patrones. Creo que está cambiando mucho también. Creo que ahora hay muchos hombres en España, yo lo veo en la gente de mi generación, en los hombres de mi generación, hay mucha más comprensión por parte de todos estos temas. Les veo muchísimos más involucrados en lo que es el papel de la mujer, en darles su lugar. Por supuesto, siempre hay gente entre los hombres y también entre las mujeres pues que se resisten a cambiar ciertos patrones, supongo que por intereses o por comodidad respecto a la posición que ellos tienen, pero he visto un cambio bastante grande, ya no solo comparándolo con generaciones anteriores, sino incluso desde que yo era adolescente hasta ahora mismo, veo una gran diferencia en cómo en España se, tanto en lo que es el día a día, en la vida cotidiana, en la política, en el mundo del arte, en cómo se refleja en profesiones creativas, también cómo se da muchísima más voz a la mujer. Y bueno, todavía queda un camino, pero creo que el trabajo que se está haciendo es bastante bueno.
J'ai remarqué une grande différence. La société évolue beaucoup en faveur des femmes. Ma génération et les hommes de ma génération se rendent de plus en plus compte de l'importance de la femme, de son rôle, et ils essayent justement de lui donner le rôle qu'elle mérite dans la société. Donc oui, il y a eu un grand changement en Espagne, dans la vie quotidienne, en politique, dans le domaine de l'art. C'est un domaine qui change positivement en faveur des femmes de jour en jour.
Oui, alors, juste une petite chose. Moi, j'ai lu récemment quand même que depuis le mouvement MeToo, statistiquement, il y a encore moins d'agresseurs condamnés qu'avant MeToo. Donc, j'ai l'impression qu'on laisse les victimes s'exprimer, mais qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait derrière quand même.
Alors, on le voit à travers votre livre, cette petite fille, elle va grandir, essayer de se reconstruire malgré tout, grâce à plein d'étapes différentes. Est-ce que pour vous, l'écriture de ce livre est aussi une forme de thérapie, une forme de réconciliation entre la petite fille et vous, l'adulte, aujourd'hui ?
Non, ce n'est pas du tout une écriture thérapeutique. Moi, la thérapie, je l'ai faite avant de pouvoir écrire. Donc, je n'ai pas écrit pour avoir des réponses, je n'ai pas écrit pour comprendre. Il m'a vraiment fallu travailler sur mes problèmes, les comprendre, pour pouvoir écrire et rendre compte de ce qui m'était arrivé.
Et le fait de rencontrer vos lecteurs, comme aujourd'hui à Chambéry ou ailleurs, ou d'avoir peut-être des lettres de lecteurs qui vous sont adressées, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide, qui vous fait du bien, ou vous dites, voilà, ce livre sert aussi à toucher les autres ?
Alors oui, clairement, oui. Moi, c'est vrai que j'ai des difficultés à entrer en interaction avec les autres. J'ai des difficultés à me faire comprendre, j'ai l'impression, mais avec ce livre, cet objet-là, il crée du lien. Je sens que je suis comprise, je sens que mon histoire elle touche et que finalement ce n'est plus que mon histoire, c'est l'histoire de beaucoup d'autres. Et voilà, c'est un livre qui permet justement de pouvoir parler de ce sujet qui est difficile, de pouvoir partager la souffrance et les vécus. Et moi, je ne m'attendais pas à ça, et ça, c'est vraiment extraordinaire pour moi. Oui.
Dernière question pour vous, Christina. Le titre de votre roman, c'est « Mira esa chica ». Regarde cette fille. Est-ce que ce livre est une invitation à regarder, mais surtout à écouter les filles, les femmes ou les hommes parmi nous qui pourraient peut-être avoir vécu des choses similaires?
Pues el título en realidad era más bien casi lo opuesto, porque era una llamada de atención a cómo se juzga a las personas. En este caso, por ejemplo, era mira a esa chica porque hay un momento del libro después de la violación cuando todo se ha hecho ya público que todo el mundo está juzgándola. Entonces es cómo la miran desde fuera sus compañeros, sus familiares, la prensa, las redes sociales, pero luego también sobre todo cómo se mira ella a sí misma porque ella también se pasa gran parte del libro juzgándose, maltratándose, castigándose por lo que ha vivido, por cómo se siente, por sentirse, porque ella se siente culpable también, no sabe hasta qué punto es responsabilidad suya. Entonces iba un poco más en esa dirección el título.
C'est vrai que le titre a une double signification. La première, c'est qu'après le viol, tout le monde a commencé à juger à cette personne, ses amis, sa famille, ses camarades, tout le monde. Mais c'est vrai que le titre aussi, Mira esa chica, elle s'est jugée elle-même, elle s'est maltraitée, elle s'est fait du mal parce qu'elle se sentait coupable, elle se sentait responsable. Et le titre du livre est du coup a une double signification. D'une part, la signification des autres et elle qui se juge à elle-même.
On a encore bien sûr. Alors moi, j'ai eu la chance de poser déjà beaucoup de questions. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont aussi une question à poser à nos deux auteurs? Allez-y, madame, on va peut-être prendre un... Ils sont là, madame, les micros. Merci.
Ça marche ?
Oui. Okay.
Désolée. Bonjour à vous deux. Merci pour vos livres. Gracias. También para tu novela. J'ai deux questions, une pour Marie. D'abord, je vous confirme, Marie, que votre livre est très fluide. Il se lit très bien. Et ça fait plaisir de voir effectivement un livre qui traite des conséquences et pas uniquement des faits. Et c'est très bien fait. Donc moi je voulais savoir si c'est ce bouclier qui parle par moment, si ça vous est venu très naturellement ou si c'est une manière, alors bon je vais un peu intellectualiser peut-être, hein. Moi j'ai trouvé que ça faisait tout à fait référence à la dissociation qu'on vit quand on vit un trauma comme celui-là avec une amnésie traumatique derrière, on le sait, les psychologues le disent, il y a une dissociation hein, de la personnalité. Et moi, ça m'a fait penser un peu à ça, en fait, votre bouclier qui s'exprime, qui dit « là, je bloque tout ». En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu, mais je ne sais pas. Je vous laisse nous dire ce personnage, en gros, j'ai envie de dire, votre corps, enfin, le corps qui parle dans le livre, si j'ai bien compris, hein,
oui,
parce
oui.
que c'est peut-être pas ça. j'ai trouvé que vraiment, c'était très fort aussi, ça arrivait très naturellement, mais c'était très fort comme voilà, ce personnage. Je vous laisse.
Merci. J'ai mis du temps à le trouver. Comme c'était mon histoire, j'avais tendance à vouloir l'écrire à la première personne. Mais quand j'écrivais tout en jeu, je disais comment je peux rendre compte du fait que je ne me souviens pas. Alors j'ai essayé d'écrire en elle, troisième personne, mais j'avais l'impression que ce n'était plus moi. Enfin, c'était très compliqué. Et je n'arrivais pas à trouver la forme pour vraiment montrer qu'à partir du moment où ce mécanisme de défense se met en place, la petite fille, c'est plus elle qui décide de ce qu'elle peut faire ou pas faire. Et quand j'ai eu cette idée-là de dire, mais en fait, à partir du moment où elle est violée, il faut qu'elle perde son jeu, le jeu qui décide. et que ce soit du coup ce mécanisme de défense qui commence à s'exprimer en jeu, lui, à sa place, et que du coup la petite fille devienne en quelque sorte la marionnette du bouclier. Donc ce changement de personne, alors je suis contente que ça soit fluide, que ça arrive naturellement, mais il m'a fallu du temps pour le trouver.
Vous aviez une deuxième question.
J'ai une deuxième question pour Christina. Est-ce que le fait, alors je ne sais pas quand vous avez démarré l'écriture du livre, en quelle année, je vois que vous avez eu le prix en 2022, donc je ne sais pas si vous l'avez écrit en 2020 ou avant. Mais est-ce que le fait que dans à peu près dans le même temps, il y a eu la série chilienne La Jauría, la meute, qui a été inspirée, je pense aussi, hein, de ce que j'ai lu en tout cas dans les articles, qui a été inspirée aussi du fait divers à Pamplona. Je voulais savoir si ça, est-ce que ça n'a pas été un peu un frein? Est-ce que ce n'est pas un peu compliqué? Alors, chaque chose est différente, il y a la série et puis il y a votre livre, mais est-ce que ce n'est pas un peu compliqué d'avoir un sujet comme ça? Est-ce que ça vous a freiné? Est-ce que vous avez dit, je ne regarde pas la série? Voilà, la concordance des deux œuvres.
Ah, vale. Pero lo de Jauría era una obra de teatro, ¿no? Una serie. Ah, pues entonces yo no la vi. No, yo oí lo de Jauría, que era una obra de teatro, y la miré cómo era. Pero lo que yo vi que era la obra de teatro era una transcripción exacta de los juicios, de lo que eran las conversaciones en los juicios. Entonces, aunque lo miré un poco, cuando me di cuenta que era realmente algo que ya podía encontrar dentro de lo que eran todos los documentos, porque me descargué todos los documentos del juicio, todas las conversaciones, todas las preguntas, me basé más en eso. Es verdad que cuando lo vi, no sé si yo ya había empezado con la idea o ya tenía la idea. Sí que, obviamente, me daba un poco de rabia que ya hubiese algo que hablase del tema. Pero no me... Cuando vi con lo que era una transcripción tan, tan concreta y tan exacta, ya no pensé más en ello. Pero yo pensaba que era una obra de... Vamos, lo que yo leí era una obra de teatro. ¿Es chilena? No, la que yo digo era entonces española. Ah, vale. Entonces esa no la conozco.
Donc c'est une œuvre de théâtre. En fait, je ne savais pas que c'était une série, donc je l'apprends et je ne l'ai pas vue. C'est une transcription exacte du procès que j'ai pu télécharger de mon côté. J'ai téléchargé toutes les pièces du procès auquel je m'intéressais. Et je ne me souviens pas si j'avais cette idée au départ, mais quand j'ai vu que la transcription me permettait d'accéder à toutes les informations, je n'ai plus pensé à cette pièce.
On a une question au milieu.
Oui, bonjour et merci beaucoup pour vos interventions et pour ce festival qui est vraiment... Je suis tombée dessus un peu par hasard en me baladant dans les rues il y a 2 semaines et j'ai beaucoup aimé les citations sur les vitrines, donc je vous remercie. Et j'avais une question pour Christina. Je suis aussi en train d'écrire mon premier roman et je ne sais pas si c'est votre premier, mais... Et je me posais une question sur écrire sur des situations qu'on n'a pas soi-même vécues. Moi, ça m'arrive souvent d'essayer d'écrire des lieux où je n'ai pas été, ou des sentiments que je n'ai pas connus, mais que j'imagine. Et oui, ça m'interroge. À quel moment trouve-t-on la légitimité d'écrire sur une situation dont on n'est pas soi-même la victime ou dont on n'a pas fait partie? Je peux vous faire la traduction comme vous voulez. Bon, allez-y.
J'adore. A ver, yo lo que quería básicamente con esto era siempre hablar de las consecuencias, no era tanto tratar el tema de la violación así desde un punto de vista frívolo ni superficial. Quería centrarme mucho en eso que he comentado antes de cómo se olvidan mucho las tragedias de las otras personas cuando pasa el tiempo, cómo las reemplazamos por otras y cómo se olvida muchas veces lo que es el mundo interior de la gente que sufre un trauma tan grande. Por eso, como yo me sentía también un poco lo que has dicho, de quizás no tan legitimizada para hablar del tema, es por eso que me documenté tanto, que tuve muchísimo cuidado a la hora de tratar todos estos temas, de investigar lo que eran las repercusiones psicológicas. Intenté ser muy prudente también y basarme mucho en lo que eran las relaciones sociales, más que quizás también en cosas más morbosas, porque me alejé de todo lo morboso con esta historia. Y también, aunque se habla mucho de que el libro es de una violación, yo siempre he defendido que en realidad es un libro sobre la adolescencia, no es solo sobre la violación, porque sé que es un tema tan... Bueno, llama mucho la atención también llevarlo por ese camino, pero en realidad es mucho más una historia acerca de los prejuicios, de los complejos, de cómo te desarrollas a esa edad, de los grupos. Y bueno, quise un poco compaginarlo y poner a muchas personas alrededor de una situación extrema y cómo reaccionan a ella, pero no solo la víctima, sino todo su alrededor.
Je voulais surtout parler des conséquences et pas tellement du viol en soi. Je voulais parler de comment les personnes sont oubliées avec le temps. Pour me rendre aussi légitime, j'ai lu et regardé beaucoup de documentaires, j'ai fait beaucoup de recherches sur les conséquences psychologiques, mais également j'ai fait des recherches sur les relations sociales. Et même si c'est un livre qui parle du viol, le thème le plus abordé, c'est surtout l'adolescence, comment on grandit à cette période, notre développement, le jugement qu'il peut y avoir, les relations sociales. C'est aussi un livre qui traite des réactions de l'entourage.
En tout cas, si vous souhaitez poursuivre cette conversation avec nos deux auteurs, je vous invite à vous rendre dans la salle arrière où elles vont dédicacer leur livre et se faire un plaisir de dialoguer encore avec vous. Merci beaucoup, Marie.
Merci.
Muchas gracias, Cristina. Et merci à vous deux. Merci à votre attention. Merci.